Bon, alors bonjour tout le monde. On se prend ensemble à étudier le livre de Daniel. Ça fait, nous sommes arrivés quasiment à la deuxième moitié de ce livre. Nous allons faire une petite récapitulation, en fait, c'est une longue récapitulation parce que nous l'avons dit au début du cours que le livre de Daniel il est divisé en deux parties. Il y a les six premières parties, les six premiers chapitres, puis les six derniers chapitres. Nous allons voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Mais dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le règne de Nebuchadnezzar, vous rappelez? Nebuchadnezzar, il est arrivé, il a assiégé Jérusalem. Dieu lui a livré le roi Joachim. Et puis, il a amené avec lui des Hébreux. Les plus sages, les plus intelligents. Excuse-moi. Alors, pendant cette... il a amené avec lui les trois jeunes Hébreux. Les Hébreux, mais parmi eux, il y avait les trois jeunes Hébreux que nous étudions dans les quatre Hébreux, disons, que nous étudions dans le livre de Daniel. Et c'était des jeunes sans défaut corporel, doués d'intelligence et de sagesse, qui devraient opérer dans la cour du roi. Dans chapitre 2, on a vu la vision qui a été oubliée premièrement par Nebuchadnezzar et qui par la suite a été rappelée par Daniel et expliquée par Daniel. Nous avons vu qu'à la toute fin, le roi, son cœur était touché, mais il n'était pas transformé. Il y avait une progression, mais ce n'est pas final. Fait que Dieu va continuer dans sa patience à travailler avec Nebuchadnezzar dans chapitre 3. C'est le tour des trois jeunes garçons. On a vu que la scène s'est concentrée sur... les trois jeunes garçons qui sont jetés dans la fournaise, qui ont osé défier la volonté du roi. Ils ne voulaient pas faire de compromis. Dieu, au lieu de les délivrer de la fournaise, il a décidé de les laisser aller dans la fournaise, mais il a décidé d'être avec eux dans la fournaise, à l'étonnement, au grand étonnement de tout le monde qui voyait ça. C'était un miracle. Et malgré cela, le roi Nebuchadnezzar est resté dans son incrédulité. Dans chapitre 4, c'est le grand songe du grand arbre qu'on a vu avec Célestin. Et il a eu un rêve aussi, mais cette fois-ci, il ne l'a pas oublié. Et c'est Daniel qui va lui expliquer le rêve. Et son rêve, c'est sa destruction, c'est son abaissement, et qui va créer en lui un renouveau. Le roi est humilié, son cœur est enfin transformé après cet événement, ce rabaissement au niveau des animaux. Il loue, il exalte, il glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres sont vraies. Et les rois justes qui peut abaisser et qui marchent, ceux qui marchent avec orgueil. Il a compris ça, que le Dieu de Daniel, il a le pouvoir et la puissance d'abaisser les gens, ceux-là qui se marchent dans leur orgueil. C'est ce qu'il a compris finalement, on voit qu'il a été transformé. Et il devient un adorateur. Dans le chapitre 5, c'est le grand festin de Belshazzar, vous vous rappelez, où Belshazzar va aller chercher même les ustensiles de la maison de Dieu qui avaient été rapportés par Nebuchadnezzar. Fait que il va faire son orgie et va utiliser ces ustensiles-là. Et d'un coup, une main mystérieuse se met à écrire, lui va faire un message comme quoi ses jours sont comptés. Comptés, pesés et divisés. Dieu t'a compté, t'as été pesé et tu ne fais pas l'affaire. Dieu va diviser ton royaume, Dieu va te l'enlever. Et le soir même, nous dit le texte, le soir même, il fut tué et c'est Darius qui s'empara du pouvoir. Dans le chapitre 6, la semaine passée, on avait vu une fois rentré au pouvoir, Darius organise. Il organise son royaume. Et la façon qu'il s'y prend, il va choisir 120 satrapes. Et puis il va choisir trois autres qui vont être les chefs. Et parmi ces trois-là, Daniel sera à la tête de ces trois-là. Et qu'est-ce que ça va créer chez eux? C'est de la jalousie, n'est-ce pas? Ils vont devenir jaloux. Ils vont monter un complot contre Daniel. Et puis, c'est là qu'il va être jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu le délivre, le roi se réjouit de la délivrance de Daniel et il ordonne la crainte du Dieu de Daniel dans tout son royaume. C'est ce qu'on avait vu jusque-là dans les six premiers chapitres. On voit Dieu travailler avec les deux rois, même trois rois même. Et maintenant, nous allons voir la suite des trois, des six autres chapitres. Comme nous l'avons dit, la première partie du livre de Daniel est très différente de la dernière. Vous pouvez voir, en grosso modo, juste une vue de loin. Les six premiers chapitres étaient narratifs et historiques. C'était facile à comprendre. C'est-à-dire, les histoires sont là, on comprend les histoires. Mais ça prenait la foi quand même. La foi que Dieu, le Dieu qu'on sert, le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui a tout pouvoir et qu'il a créé les cieux et la terre. Et s'il a créé les cieux et la terre, ben, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut faire. Fait que ça exigeait la foi pour voir toutes ces choses-là, les songes, etc., pour l'accepter et profiter aussi. Parce que Dieu a un message à communiquer. C'est un message qu'il est en train de communiquer à travers ces songes-là. Par contre, les six derniers chapitres sont genre apocalyptiques. Alors, quand on parle d'apocalyptique, c'est comme un langage qui est inhabituel, ouais, mystérieux, et qui parfois peut paraître bizarre. Il y a des songes, par exemple, dans Ézéchiel, par exemple. Il y a des songes, des vous, etc. Ben, on a de la misère à comprendre ça. C'est le genre de truc mystérieux et apocalyptique. C'est un genre littéraire, on nous dit que c'est un genre littéraire qui a été répandu, très répandu même dans la littérature juive, durant les périodes entre 200 et 100 après Jésus-Christ. Fait que ça faisait partie de la littérature juive, c'est comme ça que les gens écrivaient. Mais on retrouve aussi des passages apocalyptiques dans les écrits de plusieurs prophètes. On a parlé d'Ézéchiel, on parle de Daniel aussi. Daniel, qui par la bouche de Dieu, la bouche de Jésus-Christ lui-même, le qualifie comme étant un prophète. S'il n'est pas un prophète dans le sens classique, mais Dieu le dit qu'il est un prophète. Et ses écrits, on le voit, c'est vraiment, on va le voir dans les prochains chapitres, c'est vraiment apocalyptique. Le thème apocalyptique fait penser souvent à la fin du monde. Quand on parle, hey, quand il y a un événement, là, tout le monde, hey, c'est l'apocalypse, là, la fin du monde va arriver. Les gens paniquent. Mais ce n'est pas juste ça. C'est ça, oui, mais ce n'est pas juste ça. C'est plus que ça. C'est aussi une révélation du futur que Dieu nous donne pour nous aider à passer à travers le présent. Et c'est ce que Daniel est en train de communiquer dans ses rêves, dans ses songes, que Dieu lui a permis d'expérimenter.
Jacques, mais juste un commentaire là-dessus, sur la méthode d'hermeneutique qu'on se donne ici en partage entre eux. Par exemple, si tu regardes dans le chapitre 11, où c'est marqué que Dieu va dévoiler ce qui va arriver à Israël à partir de maintenant jusqu'à la fin. Mm-hmm. Tu regardes dans le chapitre 11, et jusqu'au verset 35, là, les choses qui sont arrivées là-bas se sont arrivées de façon étonnante historiquement. C'est arrivé, c'était exact, dans un détail étonnant, au point que les sceptiques ont dit ça n'a pas d'allure, ça doit avoir été écrit par après. Et là, tu tombes dans le verset 36, puis là, tu ne peux pas changer de l'hermeneutique, puis ben là, ça, c'est juste des choses qui on ne peut pas comprendre. Ça parle de choses qui vont venir encore. Il faut faire attention, donc, avec une hermeneutique qui met ça dans une catégorie, là, que toute symbolique, puis tu sais, tout tombe. Il faut faire attention.
Moi, je ne suis pas de cette école de pensée.
Je sais pas que les gens, les autres, c'est pas, là, mais c'est correct. On n'est pas d'accord, mais c'est correct.
Isaac, moi, j'ai une question. J'ai une demande.
Je ne prétends pas avoir la réponse, là.
Je demande si Dieu continue à parler aux hommes maintenant, par des songes et des révélations comme il faisait dans le temps de Daniel. Parce qu'il y a un passage dans le chant qui dit pas d'autre fois. Dieu parle dans d'autres manières et dans d'autres autres. Il ne prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
Okay. Moi, si je peux répondre pour moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Amen. Et il n'est pas limité. On peut pas mettre dans une canette. Ça veut dire. On va le circonscrire. Okay? C'est que il a un plan, il a un dessein, il a sa volonté, Il peut décider dans une époque donnée de communiquer d'une façon et dans d'autres époques de communiquer d'une autre façon. Moi, je peux dire dans ma vie personnelle, je ne peux pas dire avoir entendu la voix de Dieu. Mais je sais que Dieu me parle. Dieu parle, Dieu m'a parlé, Dieu va continuer à parler. Il parle encore. Et si on s'en tient à certains témoignages de nos frères musulmans, je ne sais pas si vous les avez entendus ces derniers temps, beaucoup de musulmans qui se sont fait convertir, qui se sont fait baptiser dernièrement dans notre église, et sûrement vous en avez entendu d'autres témoignages d'autres musulmans qui ont entendu ils ont vu Jésus dans un rêve. Et puis c'est ça qui les a amenés à la repentance. Fait que moi, je ne suis personne pour contredire ça. Et je crois que Dieu peut parler et va. Mais vas-y, mais les pierres vont parler. Je peux commander aux pierres de parler. C'est bon? Merci,
Oui, je veux conclure là-dessus pour dire que c'est la souveraineté de Dieu.
Amen.
Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc on va mettre ça dans le cadre de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'il accomplit les choses comme il le sent. Et puis en tant qu'humain, on ne peut pas le limiter comme on l'a dit.
Ouais.
Et puis bon, en tout cas, je veux dire que c'est un gros sujet de discussion dans beaucoup de milieux.
Ouais.
Et puis des fois même de division de communauté
Ouais.
Donc ça prend des études plus approfondies là-dessus. Mais c'est ce qu'on peut faire, retenant que Dieu est souverain et il fait les choses comme il veut.
Mais comme je dis tantôt, moi, je n'ai pas eu des songes. Je n'ai pas entendu des songes, mais je pense que Dieu me parle.
Je pense que ce qu'il faut faire dans le sens, c'est que la Bible, elle est finie d'écrire. Et donc, je ne pense pas que Dieu nous envoie des songes pour ajouter à sa parole. Et donc, je pense que c'est une des choses qui peut créer des divisions souvent, c'est que y a des gens qui se proposent comme prophètes. Et aussi, je pense que les songes ne vont jamais contredire la parole de Dieu. Et donc, ça m'enlève. Je pense que si on a ces deux règles-là, on est capable de discerner
ce qui vient de Dieu.
Ouais. Ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
Notre référence, c'est la vie.
Okay. Ça. Amen.
Les visions effrayantes de Daniel dans le chapitre 7. On a combien de versets là? On a à peu près 28. À la place de Daniel, je pense que je serais troublé aussi. ces choses-là dans des rêves.
J'aurais juste une question. Pourquoi le chapitre 7 n'est pas placé au chapitre 3?
En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse à cela. Mais comment je le vois, quand on regarde le texte, on voit que Daniel rentre en fonction. Ce rêve-là, il n'a pas eu au début. Ce rêve-là, il n'a pas eu sur le règne de Nebuchadnezzar. Mm-hmm. Nebuchadnezzar était déjà mort. Okay? Il a eu ce rêve-là après la mort de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, il le dit dans le verset premier, là, c'est sur le règne de Belshazzar qui a remplacé, 20 ans plus tard, qui a remplacé Nebuchadnezzar. Okay? La façon que je le vois en faisant cette étude-là, c'est que ces rêves-là sont éléments, comme on l'a dit, à nous préparer à des choses qui vont arriver. Daniel ne fut pas encore jeté dans la fosse aux lions. Je pense que ce rêve-là va être quelque chose... un réconfort pour Daniel quand il va vivre ces persécutions-là, entre autres. Est-ce qu'il a vécu d'autres persécutions? Je n'en sais rien. Mais ce qui est rapporté dans la Bible, c'est qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. On voit un Daniel qui a gardé confiance dans son Seigneur. Est-ce que ces rêves-là l'ont réconforté? Je crois que ces rêves. Et quand Dieu lui dit, fait ces révélations-là, tout ce qui va arriver de mauvais, il avait eu encore d'autres révélations sur Nebuchadnezzar qui sont arrivées. Lui, il y a ces rêves-là et Dieu lui dit que ça va arriver. Pour moi, c'est un encouragement. Pour lui, qu'est-ce qui va arriver? C'est rien. Dieu a le parfait contrôle de l'histoire. C'est celui qui va avoir le dernier mot. Moi, je pense que c'est bien placé dans la façon que je vois entre eux. Parce que Daniel, il va vivre des moments difficiles et il va avoir besoin de ce réconfort-là. Okay. Je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un d'autre?
Je voudrais dire, est-ce qu'on pourrait se poser la question, c'est savoir, est-ce que c'est lié à la structure de l'écriture? C'est-à-dire parce que quand même, il y a une façon d'écrire. Puis on a vu que la première partie, c'était tout ce qui est historique qu'on présentait. Et puis la deuxième partie, on rentre maintenant dans la partie de la fin des temps apocalyptique qu'on l'a présenté. Donc, ça peut
comme ça, il introduit là.
Je suis de la vie des Célestins.
Okay.
C'est aussi une question d'organisation personnelle de Daniel. Il a voulu mettre ses visions à lui après la partie historique.
Oui, je suis d'accord. OK? C'est des éléments de réponse. On n'a pas la réponse, mais c'est des éléments de réponse. OK? Ce qui se passe dans ce chapitre-là est antérieurement, comme on l'a dit, est antérieur à la période en tant que telle. On se revoit, on est retourné à l'époque où Belshazzar règne, son règne commence. Daniel a eu un songe, et à son réveil, comme nous l'avons dit, il écrit l'essentiel des détails. C'est pas peu dire, là. Il prend le temps de dire, j'ai pas tout dit, mais c'est ce qui est important que j'ai mis là-dedans. Et on voit quatre vents venus des cieux qui font éruption sur la grande mer et quatre animaux différents l'un de l'autre qui en sortent. Je ne sais pas comment ça peut être là, je ne peux pas comprendre quatre vents de quatre, je ne peux pas comprendre, ça me dépense. Mais c'est ce que le texte nous raconte, c'est ce qui est arrivé, Dieu est en contrôle de tout cela. On voit un lion, un ours, un léopard, et un quatrième animal terrible, on voit les descriptions dans les versets 7 à 8 là, et qui fait peur. Beaucoup de commentateurs prennent le temps, se lancent dans la définition de « moi, je ne crois pas que c'est sage d'aller dans ce sens-là » pour identifier les animaux qui sont... En tout cas, la Bible nous raconte que c'est ça, et nous allons voir plus loin que l'interprétation que Dieu donne lui-même de ces songes-là, et puis moi, j'aimerais m'en tenir à ça tout simplement. Je m'en tiens à cela. Mais on voit des animaux qui sont forts, le lion, qui peuvent représenter vraiment des royaumes, on sait, des léopards. Mais ce qui est important, il y a un quatrième animal qui est encore plus terrible, avec des cornes. Ce n'est même pas possible d'imaginer cet animal avec 10 cornes, puis en plus de ça, il y a une petite corne là, qui est sortie de ces cornes-là. On ne peut même pas le cerner dans notre cerveau. Là. C'est comme ça que c'est rapporté, et puis les versets nous donnent tous les détails là-dessus. Finalement, il y a l'ancien des jours. C'est qui ça, d'après vous?
Dieu.
Vous êtes tous d'accord? C'est ce qu'on voit là-dedans. L'ancien des jours, c'est Dieu, c'est le Créateur. C'est Dieu. Okay. Là, il s'installe. Il siège pour le jugement. Et on le voit dans les versets là, qui suivent. Là. Il s'installe pour le jugement. Et la mort, il va donner plus tard la mort aux quatre animaux qui sont très puissants, comme on l'a vu dans l'interprétation des rêves. Puis un autre quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Ça nous fait penser à qui?
Jésus.
Jésus, c'est ce qu'on voit. Mais vous savez que Daniel ne pouvait pas comprendre ça, lui?
Non.
Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Il ne pouvait pas comprendre ça. Ce quelqu'un-là, qui est le fils de l'homme, à qui l'ancien, du jour où donna la domination éternelle, on sait, on va voir certains versets dans le Nouveau Testament qui font écho de cela, dont le règne serait détruit à jamais. Alors, Daniel est troublé parce qu'il a vu cette vision et il ne peut pas s'expliquer cette vision cette fois-ci. Bien que Daniel a lui-même le don d'interprétation des visions, mais ça lui dépasse. Il ne peut pas l'interpréter. Fait qu'il va voir quelqu'un qui est là et puis il s'approcha de l'un des deux et qui lui demanda, mais qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Dis-moi les vraies choses, la vérité sur ces choses-là parce que je suis troublé. Et il commence par dire les quatre animaux. Les quatre animaux sont représentatifs de quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement. C'est la signification des quatre animaux qui vont se lever de la terre avec puissance. Daniel continue pour savoir, dis-moi la vérité sur le quatrième animal, les 10 cornes et les petites cornes, ça, il ne comprend pas. Et la personne qui est là, hein, il lui explique. Et quelle est la réponse? Je pense que la réponse, c'est, nous allons relire dans les versets 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce quatrième animal, les 10 cornes et la petite corne? Qu'est-ce qu'on a comme réponse dans les versets 19 à 27? Ça vaut la peine de les lire. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle trois sont tombées. Sur cet homme qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence, une plus grande apparence que les autres. Je vis cet homme faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs lui serviront et lui obéiront. Alors, on pourrait s'arrêter là parce que le rêve est expliqué. Il donne la définition, la réponse à toutes les questions de Daniel. Les royaumes qui vont s'élever et puis les cornes qui vont faire abattre des royaumes. Mais il y a une petite corne qui va aller plus loin. Peut-être qu'on pourrait apprendre quelques instants. En fait, on va aller voir quelques versets qui nous parlent de cela. On rapporte que Daniel, que ces visions de Daniel ont été une source de réconfort pour Daniel et aussi pour les fidèles. Les fidèles qui sont persécutés sous Antiochos et Épiphane. Alors, c'est un empereur qui a vécu dans ce coin-là, dans les années 175 et 164 avant Jésus-Christ. Alors, on dit aussi que Antiochos est connu pour son rôle dans la persécution des Juifs. OK? Alors, la persécution, ce n'est pas nouveau. On le voit dans l'histoire. Ce qu'il fait comme persécution, il impose la culture grecque sur les Juifs. OK? Deuxièmement, il interdit la loi. Il interdit la loi, le Torah. Pas de circoncision pour les Juifs. Il ne veut pas que les Juifs se circoncisent. Et il ne veut pas les sacrifices dans le temple. Ça, c'est vraiment attaqué de front, là. Hein? D'autres, la foi des Juifs. C'est, monsieur, là, c'est ce qu'il fait. En plus de ça, il profana le temple de Jérusalem en y érigeant un autel à son dieu qui s'appelait le roi, le dieu Zeus. Fait que ces Juifs-là ont subi ces persécutions-là dans ce temps-là. Fait que les persécutions actuelles, ou bien qu'on entend, c'est rien de nouveau. Et ça a préparé les Daniels, et nous allons voir plus tard. Daniel, ses persécutions à lui, les visions qu'il a vues, l'ont vraiment réconforté. Et même ces fidèles-là dont il est question dans cette époque-là, ils ont été, les livres de Daniel a été une source de réconfort pour eux. On dit que ça a conduit. Le fait que Antiochus avait gouverné de cette façon-là, il a imposé une culture grecque, une autre culture au peuple juif, mais ça a conduit à une insurrection. Et c'est la insurrection qui révolte qui a été conduite par les Maccabées. Il y a des Bibles qui ont un qui est. Les Bibles catholiques qui ont un et deux et deux, Maccabées, notre canon ne l'a pas. Mais ce qu'on parle des Maccabées, c'est une famille juive. C'est une famille juive qui ne pouvait plus accepter ça. Antiochos les imposait, fait, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés, et puis pendant des années, ils se sont battus contre ce gouvernement. Et puis, les Juifs ont finalement, en 162, sous la direction, en fait, ce sont des familles qui sont succédées dans cette lutte-là contre Antiochos. Et les Juifs ont finalement repris Jérusalem et ils ont pu purifier le temple, sortir tout ce qui est de Zeus, tout ce qui était de profanation dans le temple de Jérusalem. Ça, c'est de l'histoire, ça. Ça, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, les Juifs fêtent cette fête-là. Leur fête qui s'appelle Hanouka, c'est exactement cette fête-là où les Juifs ont pu reprendre le contrôle du temple et amener l'adoration, le culte de Dieu de nouveau dans le temple. C'est ce que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui et ont pu vraiment à nouveau offrir un culte à Dieu dans le temple. Alors, tout ça pour dire que les écrits de Daniel, ce n'est pas écrit en vain. Ça a été une force pour ces personnes-là, ces juifs-là, qui sont pieux, disons, qui ne voulaient pas, de cette position de culture, etc., de ce gouvernement. Et ils ont pris, ils se sont révoltés contre ça. Et ils ont gagné la bataille. On dit aussi dans ces années sombres-là, les fidèles juifs copiaient le livre de Daniel secrètement, et puis ils le partageaient, ils le diffusaient rageusement pour que les plus de gens puissent être en courant de ces promesses-là, de ces songes-là, et puis la victoire finale, pour qu'ils puissent vraiment encourager et garder la foi jusqu'à la fin, parce que c'est la fin, Dieu va avoir la victoire finale. Fait que on peut comprendre ça, entre autres pour nous aujourd'hui, les fidèles ont besoin. Nous avons besoin. Les fidèles dans ce temps-là avaient besoin d'encouragement. Et nous, aujourd'hui, j'imagine que plus que jamais, on a besoin d'encouragement. Et pour savoir comment tenir forme, on a tenu ferme. Nos convictions qu'on a vues dans les 6 premiers chapitres, là, les convictions par rapport à notre foi, à Dieu, peu importe ce qui arrive, pas de compromis. Et dans les versets qui suivent, dans les chapitres 7 à 12, on voit pourquoi ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine, malgré les persécutions, de tenir ferme, de garder notre foi? Et c'est ce que les 12 chapitres, l'ensemble du livre de Daniel nous présente. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque Daniel eut ces visions-là, il n'avait pas été encore jeté dans la fosse aux lions. Donc on peut comprendre que ces visions-là ont été une source d'encouragement pour lui, pour passer à travers cette épreuve, parce que Dieu a révélé qu'il aurait la victoire finale. Ça l'a aidé aussi à faire face à cette épreuve avec confiance. On en avait parlé tantôt, plusieurs commentateurs ont essayé de donner un sens littéral à ces visions-là. Ils essayent encore d'identifier les royaumes à partir de ce qui est dit, les 3 royaumes. Moi, je les lis avec doute, mais je sais que l'essentiel du message est passé. Il va y avoir des nations qui vont se lever pour un temps, puis ils vont finir par perdre leur puissance, et puis d'autres nations, d'autres empires vont se lever. Et
peut-être juste un petit commentaire à ce sujet-là.
Oui.
On peut faire le parallèle avec les 3 premiers royaumes. Oui. Le quatrième, qui est un peu différent, dans le chapitre 2.
Oui.
Comme c'est très bien expliqué, c'est Babylone, les Perses, ensuite c'est les Grecs, et ensuite c'est l'Empire romain. Mm-hmm. Et donc, ici, on voit les mêmes choses. On voit dans les 4 bêtes. Là, je pense que c'est pas trop compliqué de faire ce parallèle-là non plus.
Oui.
Et on le voit aussi dans le chapitre 4. Et c'est sûr que si on part avec un aéronautique que tu nous as donné au début, ça devient compliqué à comprendre. Mais pour ma part, moi, j'ai une approche plus libérale avec des comparaisons, avec des passages partout dans la parole de Dieu qui nous font comprendre que les parties de ces versets-là qui parlent du quatrième royaume, c'est l'époque où il va y avoir... dans le chapitre 11, on voit ça aussi, là. Et c'est le temps où l'Antéchrist va venir. Et puis, c'est lui, la petite corne, qui va prendre la place, qui va soumettre les autres. Donc, c'est pas juste en lisant ici qu'on peut voir ça. On peut regarder ça dans le chapitre 9, 11, on peut voir ça dans Apocalypse 13, on peut voir ça dans 2 Thessaloniciens 2, on peut regarder ça dans les prophètes aussi. Beaucoup de passages parallèles qui supportent ce que je dis là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on part avec un autre herméneutique. Alors, c'est pour ça qu'on a une différence.
Moi, je te suis, là, dans le sens que je ne me permets pas de dire... connaît l'histoire, c'est Rome. Bon, on va dire c'est Rome. Mais après Rome, c'est qui les autres? Comprends-tu? C'est ça ma difficulté d'identifier qui est le royaume qui va se lever, les trois qui vont être abattus, etc. Aller dans les détails de l'explication du songe. Moi, je reste loin de cela. Parce que sinon, je rentre dans les spéculations, je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Mais
je crois que c'est de la spéculation. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est sûr. Mais le chapitre 11 nous donne une clarté étonnante par rapport à ça. Tu sais, ça va jusqu'à. Quand on va y arriver, là, c'est quasiment impossible que toutes ces choses-là soient dites à l'avance. Tu sais, c'est tellement précis. On va jusqu'à des détails incroyables. Puis là, on arrive au verset 36, puis on tombe dans les mêmes sujets ici. Là. Et donc, tout de suite, si on change de verset, on dit qu'on ne peut pas comprendre. Tu sais.
Bon, mais après, je suis d'accord avec toi, c'est dans l'identification des royaumes que je veux être. Je vois que ça passe, ça se fait, ça, on le vit, l'histoire nous le dit, et puis ça ne va pas s'arrêter là. On va voir tantôt les textes que tu as mentionnés tantôt, là, qui parlent exactement de cela. Mais quand je veux dire, quoi, tel royaume c'est tel pays, tel royaume c'est tel pays, je suis mal à l'aise à le faire, je ne suis pas capable de le faire. Ouais. C'est, la Bible, en tout cas pour moi, ne me donne pas cette.
Est-ce que dans ce chapitre-là, ça ne dit pas dans ce chapitre-là, on comprend. Alors ça reste, ça y est, on donne plus d'explications. On est dans le suspense. Si on compare ça avec, par exemple, même le chapitre 2 qu'on a déjà étudié, c'est pas très difficile à comprendre que c'est la Babylone, les Perses, absolument, absolument. Les Grecs, les Romains, l'Empire romain, on ne voit pas en détail ici, parce que je ne veux pas faire un débat eschatologique. Je veux plutôt faire une différence par rapport à l'herméneutique qui fait que c'est difficile à comprendre. Tu sais, si tu dis plusieurs essaient de donner des sens libérales, compare ça avec ce que tu as dit au début, là, puis on voit qu'il y a un contraste. Okay? Il faut faire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas essayer de non plus être trop précis où on n'a pas de précision. Enfin, il faut faire attention, tu comprends? Mais de là à dire qu'on ne comprend rien, ça c'est l'autre bout du spectrum avec lequel la parole de Dieu dit des choses, tu comprends? Alors c'est. Je sais que ce n'est pas la position de la théologie de la Nouvelle Alliance, puis de Amiel et tout ça, mais c'est correct. On a le droit d'avoir le point de vue.
Ce que la Bible dit, je ne contredis pas ce que la Bible dit. Je soumis à ce que l'autorité de la Bible me révèle clairement. Mais de là à identifier les puissances. Je me sens pas équipé pour le faire avec les
pasteurs. Pasteur Isaac dit qu'il n'est pas à l'aise.
Pasteur, allons-y. Vas-y.
Moi, ce que je voudrais dire, en tout cas, c'est réconfortant et puis c'est confortable de savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, Daniel est un prophète de Dieu. Et puis les déclarations qui ont été dites s'accomplissent. On a vu certains qui se sont accomplis de façon claire, quand on a vu l'historique. Maintenant, vu qu'on est dans les visions pour les choses à venir, c'est-à-dire, c'est des choses qui vont s'accomplir de façon claire aussi. Et puis, celles qui se sont accomplies de façon assez précise. Donc, pour nous, c'est l'espérance. Hein. C'est l'espérance pour dire effectivement qu'on va arriver effectivement à l'Antéchrist et tout cela. Mais c'est une façon pour nous de se préparer à cela. Et puis, comme on l'a vu que ça a été réconfortant pour ceux de l'époque, pour nous aussi, c'est une espérance. Voilà. Et puis, on peut s'accrocher à ça.
Et en faire en arrière, est-ce que tu voulais dire quelque chose, mon frère? Non? Ouais. Tout ce, moi, quand je vraiment regarde dans l'histoire, et puis les textes que j'ai sortis dans l'histoire, ça me dit encore que ce que la Bible dit, c'est vrai, ça. Là. On voit des puissances qui s'élèvent. Ouais. Ce n'était pas fortement identifié que c'est Antiochus. Ce n'était pas identifié dans les textes bibliques. Mais l'histoire nous dit ça, qu'il a. Voilà ce qu'il va faire. Il y a d'autres choses qu'il a faites. Puis Dieu a permis que son peuple ait la victoire. Et là, c'est pas la victoire finale. On sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. En fait, le texte, le songe va nous amener vers Jésus-Christ. On sait que ça s'en va vers Jésus-Christ. Et la personne qui est arrivée dans la scène avec le visage d'homme, là, comme le fils de l'homme, on le voit tous que c'est Jésus-Christ. Et on allons voir quelques textes qui soutiennent tout ça, tout ce qui est dit ici dans le Nouveau Testament. Pour moi, Dieu n'a pas donné les détails. Je nous suggère de ne pas verser dans des spéculations inutiles. Ça, c'est moi qui le dis. Vous êtes libre. C'est une suggestion. Mais de nous contenter des explications données par le Saint-Esprit dans ce livre. Remarquons que dans cette vision, les quatre animaux puissants finissent par être détruits. Toutes les puissances dont il est question, ils finissent par être détruits. Et on a vu que l'ancien des jours, on a identifié l'ancien ancien comme le Dieu créateur qui a toujours été, qui sera tout le temps là. Et il a donné la domination, il a remis la domination éternelle à quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Nous avons dit que Daniel ne pouvait pas comprendre à 100% cette image-là. Mais nous, c'est le chrétien aujourd'hui, on peut voir cette personne-là. On voit que c'est Jésus-Christ qui est révélé. Et on va à des textes qui nous vont montrer ça dans le Nouveau Testament. J'ai identifié trois textes pour débuter qui nous parlent du jugement qui va être accompli par le Fils, le Fils de l'homme. Quelqu'un pourrait lire Romains 2, 14 à 16, un autre Matthieu 25, 31, un autre Matthieu 13, 41.
Romains 2, 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraît au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
Voilà. Amen. Paul le dit clairement que Jésus-Christ sera le juge dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le juge que Dieu va remis. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et Matthieu 25, 31, s'il vous plaît.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Amen.
Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ qui a cette autorité, qui va exercer le jugement final de Dieu. Et un autre texte dans Matthieu 13, verset 41.
Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité.
Merci. On voit dans tout ce chapitre-là, chapitre 13, comment Jésus-Christ va donner des symboles, des paraboles, comment ça va être la fin du monde, etc. Il va prendre le temps de les expliquer. Et on voit Jésus-Christ au centre de tout ce jugement-là. Et le Nouveau Testament est clair et il rapporte, il supporte ce que Daniel rapporte ici. Un texte encore très intéressant, dans 2 Philippe l'avait mentionné. Dans 2 Thessaloniciens, on va commencer premièrement avec les versets 2, chapitre 2, versets 3 et 4, et puis le verset 8, tout simplement, pour commencer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, et puis le verset 8.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Verset
8.
L'homme du péché. Le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et que maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
Merci. Est-ce que vous voyez le lien vraiment là, avec ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la fin des temps? Parce que Paul, le contexte, c'est qu'il s'adresse aux Thessaloniques qui pensaient que la fin du monde était déjà arrivée, parce qu'il y a, des messages qui circulent auprès des Thessaloniques comme quoi la fin du monde s'est déjà arrivée. Alors Paul va chercher des arguments solides pour dire pourquoi que ce n'est pas encore la fin du monde. Et puis il va parler de cet antéchrist, l'homme, il va parler du péché, il va parler de l'apparition de l'homme du péché, le fils de la perdition, et qui, d'après ce que nous pouvons lire, nous l'avons lu dans Daniel chapitre 7, exactement, c'est exactement ce qui est dit sur la petite corne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la petite corne, c'est exactement ce que le texte nous dit, le onzième corne qui est qualifié comme étant le... dans le Nouveau Testament, l'homme du péché, le fils de la perdition et l'impie que nous avons vu. Question: est-ce que vous pensez que la persécution des chrétiens est une chose du passé, du futur, ou elle est présente?
il y a une particularité, par exemple, par rapport à la fin des temps. Ici, on voit déjà dans le verset, par exemple, le verset 26. Donc, juste avant ça, ça parle de la persécution, on parle de l'intensité de persécution des chrétiens. Il y a toujours de la persécution, mais il y a l'accentuation de la persécution. Il note d'un point de vue séquence ici, puis après ça viendra le jugement. Donc, on voit une intensité de persécution des saints à la fin du temps, juste avant que le Christ ne revienne.
Il faut s'y attendre, mon frère. Il faut s'y attendre. Les persécutions vont s'intensifier. Oui,
non, je veux dire que moi, il y a le verset 21 qui m'intriguait un peu quand j'ai lu. Mm-hmm. 21-22.
Daniel,
oui. Mm-hmm. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Mm-hmm. Donc, ça vient appuyer un peu ce que Philippe disait. C'est-à-dire, les persécutions seront tellement fortes que on nous dit que la corne va l'emporter sur eux. Donc, sur eux, ça m'intriguait parce que je disais, mais comment...
Sur le saint même.
Voilà, comment elle emporte sur les saints.
Sur le saint.
Et puis, où est l'Esprit de Dieu pour nous assister là-dedans, pour secourir, soutenir ces saints.
Mais ça fait réfléchir.
C'est ça. Mais la réponse est, pour moi, est que effectivement, ce n'est pas. Elle emporte sur le corps peut-être des saints, mais pas sur l'âme des saints.
Je retrouve dans ça, je pense que les Thessaloniciens retrouvaient aussi dans ce passage-là, comme nous on peut retrouver, on parlait de réconfort. Okay? C'est le fait que on va souffrir, on souffre déjà, ça va augmenter, même peut-être au Québec, comme on met des aises, ça peut s'accentuer, mais notre réconfort, c'est que Dieu va juger.
Oui.
Et puis qu'on a l'espérance éternelle. Tu vois, ça finit pas là, là. Après ça, vient le jugement. Il y a la forme finale du gouvernement qui va se faire sur la terre, par la terre des Christ. Il y a la persécution qui vient avec ça. Puis après ça, il vient le temps où Dieu va juger. Et nous, on va vivre éternellement avec lui, tu comprends? Et là-dedans, il y a un gros réconfort.
Ben, pour moi, c'est le seul réconfort pour nous les chrétiens, parce que ben, mon frère disait, c'est pas comment on va vivre ça. La persécution déjà, c'est pas facile, mais là, ça va s'intensifier. Si on se retourne en arrière dans le nouveau, après Jésus-Christ, sous le temps de Néron, où les chrétiens ont été utilisés comme des torches pour les agriculteurs. Parce que Néron avait mis la ville en feu, puis les gens des chrétiens étaient accusés comme que quoi c'était les chrétiens qui avaient mis la ville en feu. Puis on est après les chrétiens, et puis d'après ce que nous lisons, dans ce temps-là, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont péri dans cette affaire-là, dans cette persécution-là. Fait que c'est pas nouveau, et le texte nous avertit. Ça va venir, peu importe si on vit aujourd'hui, ça va s'intensifier. Et je ne peux même pas penser à être jeté dans une fosse aux lions. Je ne peux pas penser à être brûlé vivant. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ça a déjà arrivé à des serviteurs qui nous ont précédés. Oui.
Moi, je pense dans ça, on doit pas s'énerver par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on s'énerve non plus. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on croit à la fidélité et la grâce de Dieu. C'est-à-dire, si tu prends, c'était Étienne qui a été lapidé. Ses pensées étaient où? Tu comprends? Tu vois, c'est ça que Dieu donne une grâce. Et qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir. Il faut dire, le Seigneur nous donnera la grâce. Il va passer à travers. Il va nous garder. Rien va nous arracher de sa main.
Oui.
Et ça, là-dessus, là, pour ça que je pense qu'il faut être réaliste, que, oui, il va toujours en avoir, il va en avoir plus. Puis dans nos vies personnelles, on a tous vécu des épreuves aussi, qui nous font comprendre que la grâce de Dieu suffit.
Amen. Peu
importe la nature, de nos souffrances, Dieu est là avec nous, et puis... Pour moi, c'est des textes qui sont réconfortants. Daniel, c'est le texte pour nous rappeler comment Dieu promet que la victoire est finale, c'est lui qui va avoir la victoire finale. Amen. Et l'histoire n'a pas démenti ça. L'histoire confirme qu'à travers le temps, il y a eu des persécutions, les chrétiens ont été persécutés, mais Dieu, l'évangile, on a encore l'évangile, et l'évangile va continuer à se propager. Il y aura encore des chrétiens qui sont rassurés que Dieu va avoir la victoire finale et nous allons régner avec lui. On ne panique pas, comme je dis, on ne panique pas, mais il faut s'attendre à que si ça arrive, on a la victoire finale, on a l'espérance que le dernier mot, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui va avoir la victoire finale. Il y a un plan, c'est dans son plan. C'est dans son plan, on a parlé de sa souveraineté, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ça. Le texte qu'il a parlé tantôt, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, hey, Dieu permet qu'ils aient la victoire sur les saints, qu'ils maltraitent les saints. Qui ont le dessus sur eux. Imaginez comment notre foi pourrait être mise à l'épreuve là-dedans. Seigneur, où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Mais c'est ce que Dieu nous avertit. C'est l'avertissement que Dieu nous donne dans le livre de Daniel. Et aujourd'hui, on peut vivre certains défis dans nos vies, certaines persécutions. Et ça va, il va en avoir encore. Il va en avoir encore. Et puis,
c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de prier, de se soutenir dans la prière. Parce que durant cette période-là, beaucoup abandonneront la foi.
C'est ça.
Bah, il ne faudrait pas qu'on oublie de le dire. Pourquoi? Parce que les persécutions seront fortes que beaucoup abandonneront la foi. Donc, c'est important qu'on puisse non seulement avoir cela à l'esprit, et puis prier les uns pour les autres. Je pense à Daniel et puis ses compagnons.
Oui,
mais
prière, oui.
C'était une façon de leur dire, mais... Ok, vous acceptez ça, c'est-à-dire vous abandonnez la foi, vous vivez. Mm-hmm. Ou bien si vous refusez, on vous tue. Mais c'est dans ça que beaucoup vont perdre, vont abandonner la foi. Donc je pense que c'est important qu'on se le rappelle.
Oui, mon frère.
Aussi dans le sermon sur la montagne, Jésus nous a dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent.
C'est le mandat qu'il nous donne, de prier, même si on est mal persécuté, prier. L'humain ne peut pas faire ça. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu pour faire ça. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous dit, qu'on a ces textes-là devant nous, mais qu'on puisse s'accrocher à ces textes-là, à ces vérités-là, pour vivre le présent et affronter le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Selon un rapport de l'ONG Open Doors International, ils disent que c'est une étude de 2024. Ils disent que 365 millions de chrétiens vivent dans des contextes de niveau élevé de persécution et de discrimination pour leur foi. En 2024. Ouais. 365 millions. Parmi ces pays, les top, là, ils parlent de Corée du Nord.
1 million par jour.
Somalie. Yémen. Nigeria, la Chine, l'Inde, il y en a plein d'autres encore. Oui, Phil.
Juste mentionner, j'ai entendu une comparaison entre la loi de la proposition de loi sur la laïcité ici au Québec, nous met dans une catégorie proche de la Chine par rapport à plusieurs éléments, pas toutes, là, mais plusieurs éléments. Et puis, c'est pour ça que je pense que le Seigneur fera, selon son programme, à mon délégué, là.
Oui.
Envoyer une lettre, puis j'ai signé une pétition aussi, parce que j'ai le droit de le faire, puis
oui.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser ça non plus, tu comprends.
Amen. Amen. Fait que, il y a des chrétiens dans ces zones-là, hein, vous savez, il y a des chrétiens. En Algérie, les églises sont complètement fermées, et on a quelques Algériens ici qui sont convertis malgré cela, ou bien qui fuient l'Algérie et qui sont ici au Canada, qui continuent à adorer avec nous. Que Dieu continue de sauver. Malgré tout cela, il est en contrôle. Il est en contrôle. N'ayons pas peur. Je parlais de panique. On ne panique pas. C'est juste qu'on s'attend à ce que ça va arriver. Et quand ça va arriver, il faut s'accrocher à notre Dieu, à notre espérance, sachant que Dieu a la victoire finale. Qu'on ne puisse pas laisser tomber, abandonner tout. Là. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Sinon, à quoi ça sert de croire en lui? Non. On a une espérance éternelle que Dieu va avoir le dernier mot. Le mot final, c'est lui qui l'a. En conclusion, ce chapitre, et peut-être l'ensemble des chapitres même, annonce aux hommes pieux des malheurs à venir. sont peut-être déjà présents. Il faut la continuer à vivre dans un monde hostile qui les persécute. Ils ne vont pas se laisser aller au découragement, car l'histoire est dans la main de Dieu. Tout ce qui arrive contribue à l'accomplissement des desseins de Dieu. Tout. Tout. Vous parlez de sa souveraineté. On n'a pas le temps pour le lire encore, mais on l'a déjà lu. Et on va, à la fin, Dieu, au jour, un jour, au jour qu'il choisit, il mettra terme, un terme au règne du mal et instaurera son royaume éternel. On l'a déjà lu, mais prenez le temps si vous voulez à la maison ou de relire ce texte-là. Je trouve que c'est très, très, très parlant. Où Paul s'adresse à ses Corinthiens, à ses Thessaloniques. Et on a lu une bonne partie qui nous identifie ce qui va arriver avec l'impie et puis le fils de la perdition qui va se présenter comme quoi qu'il était, comme s'il était Dieu lui-même. Il va demander même qu'on l'adore. Et ça, on peut entendre ces échos-là autour de nous, là, mais sachant que Dieu, il va à la victoire finale. Quelqu'un voulait terminer pour dire un point maintenant?
Je voulais lire un passage dans Jean 16, 33, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, Pétier. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincrez.
J'ai vécu le monde.
Amen.
Amen. Quelqu'un voulait prier pour terminer, s'il vous plaît?